Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Hotline Miami qui débarque sur PlayStation 3 et PlayStation Vita, et le Hotline Miami 2 qui a été annoncé à l'E3, et un de nos chroniqueurs que je vais présenter tout à l'heure y a joué, y a pu regarder, a pu voir ce que ça donne. Ensuite, on va s'attarder un petit peu sur le phénomène inquiétant de cette multiplication de clochettes qui a lieu en ce moment. On va parler de Animal Crossing New Leaf sur la 3DS, et on finira avec un très 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 bon portage sur iOS de XCOM Enemy Unknown chez 2K. Voilà, c'est le programme de la semaine. Il y aura évidemment Monsieur Fall, la Minute Culturelle, le Com des Coms, enfin vous connaissez le programme. Et je commence en accueillant un de mes chroniqueurs favoris et un invité spécial, parce que Animal Crossing le valait bien. Jean Z de France Info, bonjour Jean.
Salut.
Et on a donc le plaisir d'accueillir Yann François, bonjour Yann.
Bonjour.
Alors, pour te présenter rapidement, tu bosses pour les jeux, t'es responsable des jeux, la rubrique jeux vidéo sur 3 couleurs, donc le magazine de MK2. Tu bosses aussi pour Cro, le nouveau nom de Chronic Art, parce que c'est plus simple quand c'est plus court. Et enfin, tu fais partie de l'équipe qui a lancé ZQSD.fr, qui est un site avec un podcast aussi, mais podcast hyper long, d'après ce que j'ai entendu, c'est ça?
On commence à battre des durées dantesques, là, j'avoue.
D'accord. Donc, d'anciens du magazine Joystick qui se sont réunis pour continuer un peu à parler ensemble de jeux vidéo, surtout PC, mais aussi du reste. Ça va?
Tout à fait, c'est très très bien résumé.
Formidable. Donc tu es aussi tombé dans cette sombre histoire de clochette, et on va en parler. Mais on commence avec toi, Jean, avec l'arrivée en boîte, d'une manière très étonnante, de...
Minecraft.
De Minecraft.
Effectivement. Alors Minecraft qui a annoncé des chiffres délirants. C'est Notch, hein, le créateur du jeu, qui a annoncé ça sur Twitter. Donc 11 millions d'exemplaires sur ordi, hein, PC, Mac et Linux. Donc c'est plutôt un chiffre considérable,
on va dire ça.
On va dire ça. Et aussi des records du côté de la Xbox 360. Alors ça, c'est un peu plus inattendu, même si on l'a vu truster les hit parades du Xbox
Live. Depuis qu'il est sorti.
6 millions de téléchargements. Un énorme chiffre. Ah, c'est assez incroyable. Donc 17 millions au total, hein, donc pour ces deux versions. Et donc voilà que arrive, et c'est assez logique d'ailleurs, qu'arrive en boîte Minecraft, donc dans une version qu'on dit, alors j'ai pas eu le temps de la tester, un peu plus grande au niveau des maps, enfin bon, ils vous annoncent plein de trucs sur les serveurs, blablabla. Mais enfin, en tout cas, c'est pas une version tronquée, hein, c'est une vraie bonne version. Et écoute, ça fait plaisir, hein, parce qu'il a fait un chemin un peu délirant entre PC, Mac, Linux, téléchargement, plus maintenant la boîte, et donc le voilà, et c'est plutôt une excellente nouvelle.
La création de Marcus Persson, alias Notch, et ouais, et un phénomène. Enfin, quand on regarde les charts du XBLA, je crois que historiquement, je crois qu'il y a Terraria qui a réussi pendant une semaine ou peut-être deux à dépasser, alors que Terraria est finalement
un clone,
un clone en 2D de Minecraft. Exactement. Enfin bon, c'est vraiment un Minecraft-like en 2D.
Un beau succès.
Et il y a State of Decay qui est, quand il est sorti, a réussi, je crois aussi, à passer pendant quelques temps au-dessus de Minecraft, ou pas loin. Mais voilà, c'est le reste, il y a Minecraft et les autres. Quoi. C'est complètement impressionnant.
Enfin, oui, c'est impressionnant, mais surtout sur la longueur, en fait. Voilà, ouais. Il y a une espèce de on parle souvent du D-Day ou du jour... du jour J, le premier jour de vente. Alors là, Minecraft
ouais, c'est depuis un peu comme Nintendo, mai 2010 ça. De mémoire. C'est l'alpha de Minecraft. C'est donc voilà, c'est, et il a déjà commencé à se vendre à partir de son deuxième mois, hein, où il a demandé aux gens de payer pour avoir accès à la bêta, et une bêta qui a duré un an et demi avant d'arriver à... Et puis, mais les gens finalement jouaient déjà à ce jeu là enfin bref, on va pas refaire l'histoire de Minecraft, mais c'est fascinant, hein,
et puis ça a un vrai poids, ça. C'est important, ouais, aussi pour les indés. C'est-à-dire que par la voix de Notch, il prend souvent la parole sur Twitter. Il vient activer un petit peu les gens de chez Sony, de chez Microsoft, pour leur dire bon, qu'est-ce que vous faites. Enfin voilà, ça devient aussi un poids économique assez intéressant, même pour les indés en général. Hein, donc ce succès de Minecraft.
Et d'ailleurs, ça va peut-être forcer. On en parlait. Donc Microsoft a rétropédalé aussi. Sur la nécessité d'avoir un éditeur pour être présent sur la boutique du Xbox Live Arcade.
Effectivement, bah, chez Sony, on a annoncé, bah, pas besoin de l'auto-édition est possible, en clair, on n'a pas besoin d'un éditeur pour...
Viendez, mes amis, les jeux indépendants.
Exactement, et viendez toutes les expérimentations, ouais, possibles. Nous, on aime le jeu et on fait du jeu, hein, c'est le slogan de toute façon de chez Sony, et ils l'ont appliqué, j'allais dire, de bout en bout. Au moins, on ne peut pas leur reprocher de faire des zigzags, voire des demi-tours comme chez Microsoft. Et Microsoft, voilà, qui songerait en tout cas très fortement à faire de cette auto-édition aussi, bah voilà, une des futures de sa Xbox One. Là aussi, bah, c'est Notch, hein, le créateur de Minecraft, qui a activé un patron, enfin un ponte de chez Microsoft, en lui disant, ouais, bon alors, ça arrive quand les jeux auto-édités chez vous, etc. Et là, t'as dit, ouais, non, bon, j'ai pas le droit de le dire, c'est pas ma fonction, mais c'est quand même dans les tuyaux. Hein. Le dossier est en cours, donc là aussi, ça sent le rétropédalage, mais Microsoft a-t-il seulement le choix?
Oui, c'est la bonne question. D'ailleurs, en fait, on n'avait pas encore parlé, hein, du rétropédalage de la Xbox One, parce que nous avons enregistré la semaine dernière, le mercredi, et c'est dans la nuit de mercredi à jeudi que...
Belle nuit,
hein, très belle nuit. C'est un truc hallucinant, oui, où la news débarque un peu à l'état de rumeur sur GigaOM. Je sais même plus quel site balance un truc comme ça, mais un espèce de post très détaillé. Donc il avait l'air très crédible, et ensuite il y a un relais, je crois, sur The Verge ou Polygon qui appuie, et ça se passe en quelques minutes, hein, quelques dizaines de minutes, et bam, le blog de Xbox signé Don Matrick, hein, qui dit évidemment, nous vous avons compris, cher gamer, donc en fait rétropédalage total, donc ils abandonnent tout. C'est assez marrant parce que ils ont quand même passé l'E3 à défendre ça, quoi.
Non, ils ont passé l'E3 à parler de jeux. Justement, c'est le problème, c'est qu'ils ne savaient pas quoi défendre. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'était tellement flou. On me disait, par exemple, la politique de prêt. Personne de chez Microsoft n'a su l'expliquer. Alors, on pouvait partager ces jeux. J'entends bien partager. Hein, le verbe prêter, c'est pas à Microsoft de définir ce que veut dire prêter. Donc là, on est bien à partager avec 10 membres de sa famille et de ses potes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis obligé, moi, d'être derrière ma console si je veux le prêter. Donc, c'est pas prêter.
Ouais.
Si je veux le prêter à quelqu'un, voilà, qui est un de mes amis, c'était quoi les conditions d'utilisation? Elles n'étaient absolument pas claires. Rien n'était clair. Les 24 heures, c'était une connexion obligatoire toutes les 24 heures, mais on savait pas si ça nécessitait beaucoup
déjà, de mégaoctets. Déjà, ce truc de connexion obligatoire toutes les 24 heures, c'est bien déjà parce qu'ils avaient senti que le côté connexion obligatoire tout le temps, ça allait faire un petit peu.
Oui, puis alors ils t'expliquaient que ça pouvait passer par le portable. Enfin, ça commençait à rétropédaler. C'est ça le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas avec quelque chose de clair. S'ils avaient dit, bon, ben voilà. on vous amène un amendement maximum, c'est-à-dire des DRM. Mais en face, on ne vous propose pas des jeux à $60, madame, ni à 50, mais à 40 ou à $30. Voilà. Ouais. Les jeux neufs blockbusters, c'est $30. Voilà. Mais vous avez un emmerdement maximum. Ouais. Voilà, ça passe. Mais il n'y a rien en contrepartie. Ouais. Je veux dire, ce n'est pas parce que ton FPS va être amélioré par le cloud. Mais quelle blague. Enfin, je veux dire, on s'en fout, quoi. Il n'y avait rien en face pour le consommateur, en fait. Mais ils étaient incapables de l'expliquer. Mais c'était fou.
Et ce qui est fou, c'est que s'ils avaient pris cette décision quelques jours plus tôt, hein, à l'E3, lors de leur conférence, genre à balancer le machin, OK, on vous a compris. Donc, pas de connexion obligatoire. On vous autorise le prêt. D'une part, ils auraient coupé l'herbe sous le pied de Sony, qui se serait trouvé bien emmerdé, et ils auraient gagné, enfin ils auraient vraiment imprimé leur marque sur l'E3, et voilà.
Il y a eu aussi, je pense, une espèce d'enchaînement de couacs de com, je veux dire, avec le fameux pont de Microsoft, qui à la question, mais pourquoi comment on fait si on n'a pas de connexion permanente, il dit, bah il y a une excellente console pour ça, c'est la Xbox 360.
Don Matrix lui-même.
Voilà, donc à partir de là, plus la blague que Sony fait en fin de conférence sur le prêt des jeux, voilà, qui juste les achète au niveau du public, voilà, en touchant la corde sensible, ils étaient obligés, enfin, à un moment, ils sont dos au mur, quoi, ils étaient obligés de faire ça.
Voilà, bah donc c'est ce qu'ils ont fini par faire. Dans une belle nuit, hein. C'était
vraiment une belle nuit.
C'était très drôle.
C'est une belle nuit.
Yann, de ton côté, donc il y a une autre console dont on parle un peu moins, dont on parle quand même, qui vient de sortir aux États-Unis en tout cas.
Aux États-Unis, au Royaume-Uni, il me semble. Après, donc c'est de la Ouya, hein, donc cette fameuse console qui a été présentée dans cette folie de lancement de consoles de nouveaux éditeurs comme la Shield ou la et d'autres, voilà.
C'est horrible, hein. J'ai testé la Shield à l'E3.
La Shield, c'est quoi?
C'est la console portable de Nvidia. Donc, où on peut jouer dans ce système Android avec une grosse puce graphique, hein, donc censé. Le seul, on va dire, le plus, c'est qu'on va pouvoir peut-être, encore une fois, streamer ses jeux PC sur une version portable avec sur un écran, mais le reste sinon on joue, c'est un peu comme la Ouya, on joue à des jeux Android, hein, je veux dire, ça n'invente pas le fil à couper le beurre, hein, je veux dire, bon voilà. Et c'est alors la moitié des jeux ne fonctionnent pas ou mal, hein. C'est lourd, c'est moche, mais même je pense que la première DS était avait un somptueux design à côté, hein. Non, c'est très très moche, c'est très très lourd, voilà, donc c'est la parenthèse, voilà, pour la Shield, c'est vraiment pas...
Revenons sur la Ouya, donc.
Oui, donc c'était une des premières et qui avait fait un peu grand bruit parce qu'elle avait touché, je crois, entre 8 et 9 millions au niveau des backers.
Sur Kickstarter.
Exactement, et on pouvait choisir de donner une centaine de dollars, et du coup, il y en a plein en France qui l'ont fait, qui l'ont reçu avec plus de 2 mois de retard parce qu'il y a énormément de problèmes logistiques mais elle est arrivée, elle est enfin sortie officiellement, un peu dans l'indifférence générale, sauf pour s'en moquer, j'ai l'impression. Donc c'est une console Android, comme tu as dit, qui fonctionne en open source, qui fait aussi émulateur de jeux, et donc qui est lancée avec une sorte de store propre où tu peux déjà télécharger une paire de jeux. Moi j'ai pu y jouer par l'intermédiaire d'un ami, donc si tu trouves la Shield moche, attends de voir la Ouya parce que c'est quand même assez hallucinant. Vraiment, ça m'a... Il y a eu un côté nostalgique en revoyant cette bouille de pixels à l'écran. C'était vraiment les meilleures années de l'Atari pour moi. Pour l'instant, on en est là au niveau des jeux qui sont proposés. Le problème, c'est qu'il y a énormément de défauts techniques et notamment au niveau de la manette. On peut... Si on n'est pas obligé d'acheter la manette qui est dédiée à la Ouya, on peut prendre sa manette Xbox par exemple, mais la manette Ouya, il y a des problèmes de latence entre ta commande et ce qui se passe à l'écran. Donc des fois,
c'est beaucoup.
Il y a pas pire dans le jeu vidéo. Hein.
Ah c'est injouable.
Je pense que la pire expérience du jeu vidéo, c'est essayer de jouer à un Mario et avec un lag de 0,4 secondes.
Oh,
c'est
si
juste
c'était que ça.
La pire des expériences de jeu. C'est juste au bout de 3 minutes, t'as envie de tuer quelqu'un.
Ouais, et du coup, après, il faut peut-être laisser le temps à la console, justement, d'être aux mains des développeurs et tout ça. Il y a notamment Brian Fargo, hein, qui est un peu une lumière des indés, qui s'est porté garant de la console, qui développe son Westland 2, et on va voir ce que ça donne. Mais en l'état, bon, c'est assez risible. Quelques jeux arcade qui sont marrants, mais le problème aussi, c'est la politique d'Ouya en termes de com. Parce que hier, ils ont lancé un peu une sorte de tweet promotionnel où ils montraient des photos en mosaïque avec le contrôleur, le multiport USB, parce que c'est une des fonctionnalités de la console, et discrètement une image de Super Mario Bros. Qu'ils ont été obligés de retirer une heure après parce que au niveau des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, c'est quand même assez tendancieux.
Ça me dit quelque chose, ce truc. Ça doit encore appartenir à quelqu'un, Mario, oui, je crois. Enfin, j'ai un doute. Hein,
donc voilà, ça place un peu la console dans un état de schizophrénie entre la liberté totale de créativité et de réappropriation et ben, le côté pragmatique du marché qui est complètement contradictoire. Quoi.
Donc, la Ouya, elle va débarquer en France ou je crois hein.
Bah, c'est prévu, il n'y a pas vraiment de date arrêtée.
Enfin, bon, de toute façon, c'est vrai que pour l'instant, elle n'a pas l'air de faire un carton ni critique ni chez les gens qui l'ont reçu. Donc on va voir, hein, on va voir le destin de cette console si elle finit aux côtés de comment elle s'appelait la Guise, il n'y avait pas une console comme ça, la Guise Mondo ou un truc comme ça, non, une espèce de console portable ou la console portable de Nokia, c'était quoi le truc qui
La N-Gage,
hein. La N-Gage,
ouais. Ah ouais, c'était ça. Hein,
la N-Gage, c'était quelque chose. Oui. C'est vrai que
un grand souvenir.
Ça, c'est un grand souvenir. Ouais. Heureusement qu'on ne l'a pas eu. Enfin, je pense que moi, c'est ça. Tu te dis. Enfin,
il y a un beau cimetière des consoles qui n'ont jamais réussi à fonctionner. C'est assez rigolo. C'est le com des coms de la semaine dernière, où nous aurons parlé notamment et surtout de The Last of Us, le chef-d'œuvre de Naughty Dog sur PlayStation 3. On a aussi parlé de State of Decay en disant beaucoup de bien. Olivier 06, après les critiques dithyrambiques de la presse, les 19 sur 20 de jeuxvideo.com, les 9 sur 10 de Gamekult, je m'attendais à un jeu extraordinaire. Non, alors oui, c'est très beau et la narration est magnifique, mais pour moi, je résumerais le jeu par couloir avec des bons dialogues, échelle ou planche et ouverture de rideau de fer avec carré, les échelles ou planches et triangle, zone avec des trucs à tuer où on lance des bouteilles, où on tire dans le tas, crafting pour créer, améliorer des ustensiles ou améliorer le perso, etc. etc. Donc, très beau, mais très chiant, répétitif, beaucoup moins intéressant qu'un Uncharted dans le gameplay et dans les cutscenes, mais quand même mieux que le dernier Tomb Raider. Voilà. Donc, et il y en a quelques-uns comme ça qui sont très critiques, qui critiquent l'aspect couloir, qui critiquent l'aspect répétitif. Des critiques avec lesquelles j'ai du mal à me sentir solidaire, moi, tellement ce genre de choses m'a été invisible. Voilà. Après, je pense que c'est peut-être une manière d'approcher le jeu.
Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que les notes sont délirantes. Enfin, je veux dire, voilà, 19 sur 20, 20 sur 20, qui c'est qui. Enfin, ce complexe du prof, là, dans le jeu vidéo, est quand même assez. Là, on en voit quand même une certaine limite. Le jeu ne vaut pas 19 ou 20 sur 20, et c'est pourtant. Mais non, mais c'est pas une note qui veut. Si on dit que c'est un chef-d'œuvre, on va expliquer pourquoi et comment, imagine.
Tu vas revenir sur la note en absolu.
Ils ont raison. Parce que si on dit, bah voilà une bagnole, elle a quoi le moteur? Tu vas dire, effectivement, bah si t'as commencé à sentir un petit effet couloir, hein, un peu trop, bah oui, bah du coup, ça vaut pas 5 sur 5. Alors sur cet aspect-là, on va plutôt mettre 4 sur 5. Enfin, je veux dire, si on commence à réfléchir là-dessus, c'est pas possible. Et si on dit c'est un chef-d'œuvre, et comme tout chef-d'œuvre, bah il y a des imperfections. Je ne connais pas de chef-d'œuvre, ni au cinéma, ni ailleurs, qui n'ait pas d'imperfections. Voilà, bah il y a des imperfections de ceci, c'est là, mais à côté des immenses qualités, voilà, c'est ça qu'il faut expliquer. Mais le côté, effectivement, salon de l'automobile, ça reprend sur la gueule. Finalement, moi, je comprends, hein, tu vois, 19 à 20 sur 20, tu te dis ça va être partout, quoi, dans tous les domaines, ça va être le top. C'est pas vrai. Et non, ce n'est pas vrai.
Non, mais oui.
Et pour revenir sur ce qu'il dit dans sa remarque, oui, c'est un gameplay très identifiable qui est une compilation d'efficacité de ce qui s'est fait ailleurs. On est complètement d'accord. Mais par rapport à Uncharted, je trouve vraiment couillu de la part de Naughty Dog d'avoir non seulement gardé quand même une espèce de côté TPS un peu arcade, mais avec une exigence de réalisme. Je veux dire, il y a une espèce de tension comme ça qui vient du réalisme, du manque de munitions, de la mauvaise visée du personnage, mais que ça reste complètement fun. Enfin, là-dessus, je pense qu'il y a une vraie plus-value par rapport à Uncharted.
Ouais, puis il y a une douleur qu'on ne connaît pas. Enfin, il y a une douleur humaine qui est là, qui transpire, qui est tellement rare dans le jeu vidéo. Bon, on en parle beaucoup ici dans ce podcast, mais bon, voilà, des The Walking Dead. Il y en a pas beaucoup des expériences comme ça. Il y a une vraie justesse des héros, enfin des protagonistes. Il y a une vraie dureté.
Mélancolie pendant pratiquement tout le jeu.
Ouais, on cherche la lumière dans la nuit. Ouais. Quoi. Enfin, on est là. Enfin, c'est horrible.
Ouais.
Et voilà. Bon, ça, c'est rien que pour ça. Effectivement, ça, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre d'émotion.
Alan San, qui lui fait une erreur de débutant, hein, dans un forum de discussion, parce que il dit un peu déçu par The Last of Us. Ce scénario ne m'a pas surpris une seconde en dehors du prologue. Hein. Oui, bon, on pourrait reparler de ce prologue. Non, on ne va pas en parler.
Le final, s'il l'a vu arriver.
Oui.
Faut y aller quand même.
Tout est du déjà vu. On voit arriver les deux rebondissements à 15 bornes. Bon, là,
Ouais.
Mais c'est là où il fait l'erreur. Déjà vu dans les bons et mauvais films d'Infesté, il y a même une référence flagrante à Doomsday, virgule, un très mauvais film. Et là, on peut avoir l'avis qu'on veut sur Doomsday, mais je pense qu'il doit y avoir une règle tacite où il ne faut pas dire Doomsday un très mauvais film, parce que là les gens après ils ont oublié de quoi on parlait, ils ont oublié The Last of Us, ils ont oublié tous les autres sujets de discussion, ils ont oublié le jeu vidéo, et c'est parti dans une discussion sur Doomsday, hein, qui a pris donc la moitié des réactions de ce podcast consacré à The Last of Us. Bref, et enfin Nico qui dit bon voilà, je suis d'accord, en fait il répond aux gens qui ont trouvé le jeu dirigiste, il dit oui le jeu est dirigiste, mais à l'heure actuelle aucun jeu à mon sens n'a franchement réussi à offrir une narration parfaite dont le déroulé ne serait pas linéaire. Même un Red Dead que j'adore, je dois aller au point 1 pour faire avancer l'histoire, je peux attendre pour aller au point 2, mais je devrais forcément y aller pour voir accéder à l'élément narratif 3, etc., etc. C'est une demi-liberté. Au vu du résultat, pour le moment je me contenterai d'un excellent dirigisme sans bouder mon plaisir. Je souhaite de tout cœur que les prochaines générations de consoles et de jeux offriront des histoires aussi humaines et aussi fortes en offrant une vraie liberté tant dans le déroulé de l'action que de l'histoire. Ça a l'air bien parti, comme on l'a vu des images avec The Witcher 3, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Voilà, c'était le com des com de la semaine dernière, et encore une fois je ne sais pas, en fait on fait des intros maintenant hyper longues à ce podcast. On va finir par faire des intros de la longueur du podcast, je comprends pas. Enfin voilà, on va écouter ça, c'est les premières notes de Hotline Miami 2. Sorry, you have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. We're sorry, you have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. We're sorry. Et oui, Hotline Miami 2, ambiance en toute cohérence avec le premier. Alors Jean, Hotline Miami, les gens derrière Devolver Game était à l'E3 dans un petit endroit à l'extérieur, parking.
Un parking public, $10 la journée si vous voulez savoir le tarif. Donc ils ont loué un petit emplacement en face de l'E3, ils sont installés avec des caravanes américaines, ils ont fait un barbecue pendant 2-3 jours avec des bières. Visiblement il y avait une discothèque, hein, l'une des caravanes était une discothèque, on dansait toute la nuit. Et donc c'est là où il montrait Hotline Miami 2. Donc l'un des protagonistes nous a montré les jeux avec un niveau de Bomberman tatoué sur le bras. Donc ils sont quand même, ils sont deux, hein, donc à avoir développé ce jeu. Encore une fois,
je pense que pour développer un jeu comme Hotline Miami, il faut pas être complètement bien dans sa tête.
C'est ça exactement. Ouais. Ils ne sont pas bien dans sa tête. Alors du coup, ça reprend effectivement le même principe, hein, vue d'au-dessus, hein, et puis vous allez être un canardeur. Enfin, c'est pas simple d'aller canarder les différentes missions d'Hotline Miami. Ce Hotline Miami 2, ça s'affirme, en tout cas s'affiche encore plus complexe. C'est-à-dire que bon, on croit que c'est facile, hein, il faut juste dessouder des gens avec une rythmique musicale absolument géniale, et plus avec du gore et du sanglant et du glauque. Bah là c'est encore plus sanglant, c'est encore plus glauque, et ça se passe 10 ans plus tard. Alors c'est plus les années 80, on est dans les années 90. Et puis on va jouer un scénario, on va dire à plusieurs entrées, en tout cas à plusieurs héros. Le premier d'entre eux, une espèce de meurtrier obèse avec une tête de porc, enfin avec un masque de porc sur la tête. Évidemment ça va saigner, enfin, de ce que j'ai vu moi ça saigne beaucoup. C'est plutôt galère, hein, parce que l'un des, donc le designer galérait quand même pas mal, hein. Ouais. Il a dû, un de ses potes a dû lui filer un coup de main. Ça s'appelle Hotline Miami 2, donc Wrong Number. Ça promet, en plus ils ont gardé le même musicien que le premier, toi t'avais beaucoup aimé.
Ouais,
la bande
notamment.
Et du coup ils en ont rajouté d'autres, ouais. Donc pour alimenter cette future BO qui s'annonce déjà exceptionnelle, ça va sortir cette année. Moi, de ce que j'en ai vu, c'est vraiment une filiation, voilà, c'est une itération. Il n'y a pas grand chose de nouveau, mais on complexifie le scénar, et puis c'est quand même un défouloir. Pas facile, pas aisé, musique à fond la caisse, c'est ce qu'il y avait dans la caravane. Donc les mecs ont mis la musique à fond, donc c'était assez génial. Donc voilà, ça promet une véritable réussite comme le premier.
Apparemment, ils sont engagés à beaucoup travailler sur l'amélioration de l'IA, que les ennemis seraient beaucoup moins robotiques et
Ah, pour le coup, moi, j'ai pas pu mettre la main dessus, mais certains niveaux, ça galérait. Hein. Je veux dire, vraiment, ça galérait. C'était au, voilà, c'était au pôle de pixels près, comme d'habitude. D'ailleurs, comme le premier, effectivement, c'était très loin d'être simple, mais ça donnait envie de jouer. Voilà, donc moi, j'ai plutôt hâte. Hein.
Et le premier, Hotline Miami, vient, lui, d'arriver sur, en crossplay. Hein, c'est la formule consacrée sur PlayStation 3 et PlayStation Vita. Moi, je l'attendais. Je l'attendais beaucoup, ce Hotline Miami PlayStation Vita, parce que bah, d'une part, j'avais pas eu le temps et ou le courage de finir la version PC, et je sais que quand je me mets sur la version portable, j'ai une plus grande facilité pour finir les jeux sur les versions portables. Et je trouvais que voilà, le gameplay, l'ambiance, l'espèce d'hystérie qui est projetée par Hotline Miami, ça allait bien avec un jeu portable. Tu as pu mettre la main dessus aussi, Yann. T'en as pensé quoi de ce portage?
Je t'avoue que j'avais très peur, puisque de passer d'une jouabilité PC clavier souris à soit le pad de la PS3, soit la maniabilité Vita, je pensais qu'il y avait une perte. Enfin, j'avais très peur qu'on perde en réflexe, on perde en rotation et tout ça. Et je dois avouer que j'étais assez agréablement surpris. Le jeu n'a absolument rien perdu de cette espèce de frénésie de... Bah, tout simplement rendre un jeu d'arcade en compétition sportive. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui me fascine dans ce jeu-là, quoi. C'est le côté die and retry, mais à un degré poussé tel que quand tu finis un niveau, t'as vraiment l'impression d'être un athlète.
C'est ça. Et parce que c'est plutôt un die et retry. Voilà.
Retry if you want. Et autant, bon, sur le niveau graphique et tout ça, il y a rien à redire et ça passe tout seul. Après, il y a quelques fonctionnalités en plus, ou alors qui existaient dans la version PC, mais qu'on n'avait pas pris le réflexe de l'avoir, c'est-à-dire le fameux tu peux locker maintenant, ouais, certains ennemis, notamment avec la Vita, en carrément touchant l'écran tactile, de voilà, orienter ton arme automatiquement.
Alors le lock existait en version PC, mais c'est vrai qu'avec le tir souris on n'utilisait pas, enfin moi j'utilisais pas le lock, mais c'était une fonction qui existait. C'est
pareil, ouais, je t'avoue, en le découvrant sur la Vita, je me suis dit mais il existait vraiment, et en fait oui. Et la question, c'est est-ce que... Bon, c'est sûr que ça aide vachement à se repérer dans l'espace, surtout quand t'as plusieurs ennemis dans la même salle. Tu peux anticiper une espèce d'action tactique grâce à ça. Mais vraiment, je me pose la question, est-ce que c'était pas ça aussi qui faisait le sel de Hotline Miami PC? C'était le fait d'être un peu livré à toi-même par rapport à cette maniabilité très, très simulation, finalement. Et que ça ôte pas une part de jouissance à justement terminer une salle. En même temps, je l'utilise, donc c'est un peu schizophrène de ma part, mais je trouve que l'implantation, en tout cas, est bien faite. Ouais. Mais je sais pas, on peut jouer sans, de toute façon, c'est pas obligatoire et tout.
Oui, alors c'est vrai qu'on arrive sur les contrôles classiques. Moi, je trouve que d'une part, les contrôles de Hotline Miami vont très bien, avec les contrôles console passent très bien. Après, c'est vrai que par rapport au fait de viser avec la souris, viser avec le pad droit, c'est beaucoup, beaucoup plus chaud, parce qu'on est beaucoup plus approximatif. Et alors, l'approximation, s'il y a bien un truc qui ne pardonne pas, c'est l'approximation dans Hotline Miami. Et donc, d'où cette nécessité de loquer. Et en fait, moi, il s'est passé un truc, c'est sur les premières parties où on passe d'un état à un autre, la prise en main, déjà au début on galère parce qu'on sort de Hotline Miami PC, et donc on galère, on se dit ah putain, ça va être vachement plus dur, je vais pas pouvoir m'en sortir. Et puis arrive ce moment où on commence à comprendre l'utilisation du lock, la préparation, beaucoup plus de préparation, beaucoup moins d'impro que dans la version PC. On prépare c'est son avancée. Et là, on se dit, ça va être plus facile, parce que quand on commence à utiliser le lock, finalement, avec le carré, si je me souviens bien, on passe d'une cible à l'autre, donc on passe d'une cible à l'autre, on peut locker plusieurs personnages. Et puis, donc ça, on fait le chapitre 1 comme ça. Le chapitre 1, c'est 4 ou 5 niveaux, je crois, et puis on arrive, il y a un boss de fin, et puis là on passe au chapitre 2, et on arrive à ce chapitre 2, à ce début de chapitre 2, en tout cas moi qui m'a laissé un grand grand souvenir sur PC. Alors pour ceux qui ont joué au premier Hotline, c'est l'arrivée du chien qui t'oblige à commencer à chorégraphier ton avancée dans le niveau, c'est-à-dire à préparer ton pas sur le côté, ton pas de devant, le moment où tu tournes sur toi, enfin voilà, tu dois commencer à chorégraphier ton niveau. Et donc c'est là où, par exemple, tu commence par avancer dans le couloir, à taper le mec qui est sur la gauche. Bon, généralement, une fois sur deux, il arrive à te taper avant. Donc déjà, tu meurs, tu recommences. Mais bon, bref, tu y arrives. Après, tu prends la barre à mine. Tu attends que le chien il arrive pour péter la gueule du chien. Après, tu vas buter les deux mecs qui sont dans la salle de bain sur la gauche. Tu reviens en arrière, tu butes les deux mecs. Mais là, il y a un fusil à pompe, donc tu te fais généralement buter une fois sur deux. Donc tu recommences au niveau et tout ça. Et en fait, tu te rends compte que avec ces contrôles, tu te retrouves avec exactement la même difficulté que dans le premier, et que finalement, le premier était tellement une histoire de chorégraphie, c'est-à-dire le die and retry, c'était apprendre les pas petit à petit sur le franchissement d'un niveau, que ben voilà, maintenant tu mets les locks dans ta chorégraphie, mais c'est juste ça, et c'est tout aussi difficile, et je suis mort un nombre incalculable de fois, quoi.
Et il faut signaler aussi une petite feature qui est sympa. Donc le jeu fonctionne aussi avec des masques que tu choisis avant chaque niveau, qui t'apportent des bonus. Ils en ont rajouté un par rapport à la version PC, qui te permet de voir le niveau en noir et blanc. Et donc du coup, bon, ça ne sert absolument à rien au niveau gameplay, on est d'accord, mais ça, au niveau graphique, ça apporte ce que la partie en noir et blanc de Kill Bill apportait face à la partie couleur, c'est-à-dire quelque chose de complètement déréalisé qui te... Enfin, qui te t'éloigne du côté un peu gore, violent du jeu. Et bon, ça ne justifie pas un achat, mais de toute façon, il faut vraiment se ruer sur ce jeu qui est une espèce de d'étendard indé, voilà, parfait, qui rétablit à la fois la narration pulp, qui est une espèce de pot-pourri de toute la scène indé, parce que c'est un jeu qui a pris beaucoup de temps, et puis il y a plein de développeurs qui sont venus aider à faire la musique, notamment le créateur de Lone Survivor, Jasper Byrne, qui est venu faire une musique et qui est modélisé dans le jeu. Enfin, je pense que c'est vraiment une histoire de famille, en fait, ce jeu-là, et rien que pour ça, il est super attachant.
Et puis quand même, il y a la combo où on balance la M16 sur l'ennemi, on se rue sur lui, on lui éclate la tête contre le carrelage, on reprend la M16 et on bute les mecs qui arrivent parce que... Ah non, mais ça, rien que ça.
Ah ben, bah, le gameplay émergent dans
le
jeu-là est fou.
Le jeté de M16, c'est quand même un truc qu'on peut pas passer à côté. Est-ce qu'il y a deux jeux plus éloignés
ça, c'est pas sûr.
Au sein de la ludothèque mondiale depuis 40 ans que Hotline Miami et Animal Crossing New Leaf? La question est posée, on va écouter Animal Crossing. Alors le pitch, vous êtes dans un train, un chat vous aborde. mais où est-ce que tu vas et comment tu t'appelles et où est-ce que tu vas? Alors moi je vais à Joliville et donc c'est formidable et tu arrives à Joliville, tu es maire de Joliville et voilà.
Et que tu ne le sais pas, hein. Tu arrives, on te dit tu es maire.
Ah oui, voilà, tu ne sais pas et tu arrives. Et, ah oui, c'est, rebondissement,
attention, excuse-moi.
Dès le départ, voilà, on prend le joueur de cour.
Ah mais complètement.
Ouais, non, c'est vrai.
Moi, je ne m'y attendais pas.
Et donc, on est dans Animal Crossing New Leaf. Alors, je n'ai pas calculé. Il y a eu une version GameCube. Je ne sais pas s'il y avait une version avant GameCube, mais
je crois que c'est la première.
Une version DS, une version Wii, et maintenant, très logiquement, comme on pouvait s'y attendre, la version 3DS. Très peu de jeux ont réussi à avoir une telle communauté de gens qui ont une tendresse absolue pour un univers comme ça, pour ce genre. C'est un genre à lui tout seul, pratiquement. Il n'y a pas d'équivalent. Et moi, je dois vous avouer que je ne comprends pas grand chose à Animal Crossing. Je compte sur vous, chers amis.
C'est assez étonnant que tu ne comprennes pas, parce que autant tu citais quelque chose dans Persona 4, je crois que tu adores. L'une de ces choses, c'est que tu vis au jour le jour avec les protagonistes de cette histoire. C'est exactement l'un des beaux principes de Animal Crossing New Leaf. La première chose qu'on te demande d'ailleurs, c'est de mettre horaire et date à jour. C'est-à-dire que tu sois bien calé, parce que jour et nuit, saison après saison, tout ça va être calé sur ta propre vie. Et c'est vraiment un gestionnaire de vie, effectivement. moi que je dirais destiné d'abord aux enfants, c'est ce qu'on oublie de dire. Alors Joël Métro de 20 minutes, qui était l'un de tes chroniqueurs favoris, un ami évidemment, mais me dit mais comment ça, Jean, c'est pas du tout un jeu pour enfants. Il me dit c'est kawaii, c'est pas pour enfants. Je dis attends. Non. Et ça me rappelle les gens qui les filles qui avaient pris Lara Croft en héroïne. Lara Croft a été fait pour des ados boutonneux qui rêvent de jolies filles. Hein. Mais les filles, voilà, ont pris cette fille-là. On dit non, c'est une aventurière, elle est libre dans sa tête, machin, etc. Elle a un caractère fort. Donc voilà, et ça, c'est notre héroïne. Maintenant, c'est notre héroïne. Bon, là, c'est un peu pareil. On a l'impression que les ados et les adultes prennent Animal Crossing New Leaf parce qu'il y a un univers extrêmement doux, plein de gentillesse. Voilà, on est dans tout le contraire, effectivement, de Hotline Miami. Mais il y a ça. Et donc, tout le monde va se prendre à ce jeu-là. On peut y jouer 30 minutes par jour. On va vraiment gérer la vie de ce nouveau maire. Hein, donc, aller discuter avec ses concitoyens, aller à la pêche, chasser
avec
les papillons.
Quatre concitoyens.
Oui, il y en a plus parce qu'on peut discuter avec les commerçants. Puis, n'oublions pas le Street Pass. Hein, c'est-à-dire que là, la fonction Street Pass est assez géniale. C'est-à-dire que si on communique entre deux, trois consoles qui ont Animal Crossing New Leaf, on va pouvoir échanger de la déco, etc. etc. La maison de l'autre. On va pouvoir faire plein de choses. C'est un vrai jeu communautaire. Et il y a vraiment... c'est plus que zen, il y a vraiment quelque chose qui émane de ce jeu. Voilà, c'est comme une aura qu'on peut qualifier de gentillesse, de naïveté, de tout ce qu'on veut peut-être, mais c'est assez rare.
Mais je suis absolument pour la gentillesse. Hein.
C'est assez rare.
Moi, je ne suis pas un vieux cynique.
Encore une fois, ça prend 30 minutes par jour. Ouais. On est calé, on peut y aller de nuit, on peut les saisons passent, on commence à s'attacher aux personnages, on peut leur écrire. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui se passe, un peu comme un coup de foudre. Alors, des fois, ça ne marche pas visiblement. Erwan, toi, ça n'a pas marché, mais moi, j'ai eu un coup de fou, alors Dieu sait que je suis assez éloigné de ce genre de jeu, il y a quand même quelque chose. Voilà, quelque chose émane de ce jeu d'assez magique et d'assez improbable, c'est-à-dire la gentillesse dans le jeu vidéo. C'est quand même un truc qui est rare et rien que pour ça, c'est quand même incroyable.
Ouais, Yann
Il faut que je fasse plusieurs professions de foi aujourd'hui. Oui, je joue à Animal Crossing. Non, je n'en ai pas honte. D'ailleurs, j'avais ramené ma 3DS pour Street Passer avec vous. Et à la fois, j'arriverai jamais à te contredire parce que je comprends tout à fait qu'on soit complètement rétif à ce genre d'expérience parce qu'il y a un côté presque épidermique en fait à la relation au jeu. C'est-à-dire que oui, il y a une espèce d'overdose de choupitude. À un moment, t'as envie de vomir des arcs-en-ciel tellement tout ça est trop propre, trop japonais finalement dans son espèce de relation au bonheur et tout ça. Mais il n'empêche que c'est le premier Animal Crossing que je fais vraiment. Avant, je le regardais sur console de salon. Je regardais les autres jouer. Je trouvais ça tellement éloigné de ma personnalité et surtout de ce que
je conçois. Parce que t'es pas un mec gentil, en fait.
Des degrés variables, on va dire. et finalement, je me suis fait complètement avoir dans le jeu. Parce que, au-delà de son apparence qui est... très très rigide en fait, c'est ça qui me pose un problème dans le jeu au départ, c'est le côté finalement très protocolaire qu'il y a à chaque fois que tu rentres dans un magasin, les gens te saluent, à chaque fois t'en sors, t'as une espèce de rituel qui est vraiment, là je suis d'accord, c'est insupportable, ils ont pas réussi à le changer, mais en même temps c'est complètement logique avec l'idée du jeu de te faire vivre une vie parallèle qui est pas du tout la tienne, une projection où finalement chacun fait ce qu'il veut. Alors quelle est la différence entre un Second Life, entre un Sims et tout ça qui sont dans la même chose, et d'ailleurs Animal Crossing a été un peu créé pour contrer le phénomène des Sims au Japon, je sais pas trop, mais ce qui est vraiment très très beau, c'est que il y a quelque chose dans le jeu qui fait que oui, tu joues tous les jours, il faut pas jouer plus de 2 heures parce qu'effectivement tu vois vite les limites du système, parce qu'au bout d'un moment tu fais que pêcher et ramasser des insectes et c'est assez vain en soi. Mais chaque jour t'as des espèces de micro événements comme ça, mais tout petits, hein, qui n'ont rien d'exceptionnel, mais dans lesquels tu te projettes de manière assez folle, quoi. Et finalement ce jeu là c'est, faut pas le prendre pour plus qu'il n'est, c'est-à-dire un miroir de déformé du quotidien, où tu projettes soit une envie vraiment forte d'être encore plus gentil que dans le quotidien, donc moi ça me parle pas, je suis d'accord, soit t'es vraiment l'aspect collectionneur, collectionniste, mode, machin, tu redécores toute ta ville et tout ça, soit tu t'inventes des gameplay. C'est là où le jeu m'a vraraiment surpris, c'est que je me suis surpris à capitaliser sur des éléments de gameplay qui sont assez primaires, mais finalement tu trouves un amusement, tu trouves une logique, tu trouves une cohérence. Et alors effectivement, comme a dit Jean, c'est vraiment la version portable qui est la mieux de toutes parce qu'elle est complètement adaptée au système communautaire. Et je l'avoue, je le dis publiquement, on a créé un groupe Facebook spécial Animal Crossing où on s'échange notre...
Mais Erwan est parti là.
Non, je suis encore là.
Je fais un peu du prosaïsme.
Non, mais je suis très intéressé.
Pardon.
Ça me fascine.
Tu sais, dans le jeu, il y a dans une boutique, il y a un cours du navet. C'est-à-dire, il y a un cours de la bourse qui évolue
chaque jour. C'est la boutique
du
recyclage, la boutique centrale.
En fait. Et ce navet-là, tu peux les acheter qu'un seul jour de la semaine. Et tu les achètes à une petite valeur. Et le but, c'est de trouver le bon jour avec la bonne valeur. Sauf que quand tu es tout seul, ça n'a quasiment aucun intérêt. Et puis, tes navets pourrissent. Et puis, tu perds. Et puis, tu as dépensé 500 000 clochettes et tu as envie de tuer tout le monde. Mais justement,
500 000, c'est... non,
c'est beaucoup.
Ouais, mais enfin, au début, c'est beaucoup. Mais après, ça devient une décadie. Et vraiment, cet aspect d'échange et tout ça, ça fait vivre une espèce de microcosme complètement parallèle à ton quotidien que je trouve assez fascinant, que seuls les ARG ont réussi à faire avant. Et on voit bien que maintenant tous les jeux sociaux sur Facebook, les Simpsons, Springfield et tout ça sont complètement infusés de Animal Crossing. Et je trouve que dans ce genre-là, c'est le meilleur.
D'accord. Mais moi, en fait, ce que j'ai pas réussi à comprendre, c'est que par exemple, les jeux où il n'y avait pas un but précis, où il n'y a pas un objectif, ce qu'on appelle les sandbox, hein, les bacs à sable. On parlait de Minecraft tout à l'heure. Minecraft, on débarque en plus dans un monde généré. Donc voilà, le truc il est généré par ton ordinateur au moment où tu lances la partie. Il y a rien à faire. Tu craftes, tu construis tes trucs, tu vas miner du charbon dans des mines de charbon quand même. Enfin, tu passes des heures à construire des rails pour aller miner plus bas pour récupérer de l'or. Enfin, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé des dizaines d'heures. Donc, je suis capable de m'investir là-dedans. Mais parce que dans Minecraft, pareil, dans les Sims, j'ai quand même joué beaucoup aux Sims et aux Sims 2, aux Sims 3. À partir du 3, un peu moins, mais il y a un aspect créatif. Enfin, comment dire, c'est sandbox, mais en même temps, il y a un aspect où on peut être hyper créatif. Et j'ai pas trouvé dans Animal Crossing l'aspect création. C'est comme si on me demandait, c'est comme si ce qu'on me proposait, c'était joue-y tous les jours, comme ça. Avec un peu de bol, si tu t'y connectes au bon moment et si t'es suffisamment motivé et si t'as les bons amis, tu finiras par découvrir tout ce que les développeurs y ont mis. Et là-dessus, je suis d'accord. Ça a l'air d'être une générosité incroyable, oui. Qu'il y a des blagues, des jeux de mots pourris encore plus que dans les titres de Libé. il y a une vraie générosité. Mais je me connecte, ça fait plusieurs jours que je me connecte tous les jours.
Il faut aussi souligner qu'il y a encore une fois, on est bien sur un univers pour enfants, ouais. Faut pas l'oublier, vitesse n'est pas la même. C'est-à-dire que c'est une vitesse extrêmement lente pour construire sa première maison, mais ça met tellement de plombes. C'est vraiment un exercice de patience, enfin en nombre de jours, enfin, c'est incroyable, c'est un exercice de patience ou son premier pont, parce qu'il y a une rivière, voilà, et puis pour aller plus vite chez les voisins, il faudra un pont là au lieu de faire tout le tour de la rivière. Mais ça met mais des siècles. Donc c'est vraiment un tempo qui t'impose, hein, c'est là où c'est assez dirigiste, ça t'impose ce rythme-là, et on peut être réfractaire, mais effectivement ça n'a pas d'autre but que de s'occuper d'une communauté, d'avoir, de marchander, d'aller voir la bourse, de pêcher, de prendre son temps, de faire de la collectionnite, mais il y a une certaine lenteur qu'il faut pouvoir supporter. C'est c'est rarement vu un jeu aussi lent, quoi. Enfin, vraiment, c'est lent. Et c'est pas seulement au début, c'est que c'est lent aussi. Il y a une certaine lenteur qu'on doit accepter.
Mais vu que ça fait quand même pas mal, le jeu est sorti il y a très peu de temps, hein, mais c'est vous en tant que journaliste, ça fait quand même déjà quelques semaines que vous êtes dessus. Genre, t'étais parti à l'E3 avec, je sais pas.
Oui, je suis parti à l'E3. Ouais.
Et par exemple, t'as joué à Animal Crossing en même temps que tu as joué à The Last of Us. Enfin, c'est deux choses qui étaient compatibles.
J'ai arrêté Animal Crossing.
D'accord.
Là, il y avait pas de. C'était pas compatible. C'était pas tout à fait compatible. Mais aussi parce que j'avais d'autres jeux. On va en parler. J'avais d'autres jeux sur. Mais pas. C'est pas. L'un ne chasse pas l'autre. Quoi.
D'accord. C'est-à-dire,
quand tu as besoin de gentillesse après toute la dureté quand même du monde qu'on te fout en pleine gueule dans The Last of Us, je veux dire, un bon Animal Crossing, ça fait du bien. Mais juste 20 minutes, 30 minutes, on n'a pas besoin de passer
de décompression.
C'est 30 minutes, on va faire ces trucs, papa. Enfin, c'est fini. Voilà, on a fait ces 30 minutes. Déjà 2 heures, ça me paraît déjà très, 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 très long. Mais 30, 40 minutes, c'est bien. On a fait son truc, on a écrit ses lettres, on a été pêché, on a vu l'avancée des travaux. Et franchement, et c'est un univers effectivement kawaii. Moi, je comprends que les adultes prennent ça parce que c'est de l'ordre de la bouffée d'air frais quand même.
Ouais.
C'est de l'ordre, et bien faite. voilà, c'est une vraie bouffée d'air frais qu'on a peu quand même en ce moment. Voilà, aussi ingénieuse, aussi riche, aussi lente, d'un coup on vous oblige à décélérer de votre vie au quotidien, mais ça, vraiment c'est tout le contraire de Twitter par exemple. Et là c'est boum. Et on est bien.
Ouais,
un coup de frein, on est bien.
Entre nous. C'est pas un... Vous allez continuer à y jouer, par exemple. Est-ce que vous allez voir la neige tomber? Parce qu'on a vu des images, il y aura de la neige en hiver.
Moi, j'ai hâte, ouais.
Mais en hiver.
Moi, j'attends plus Halloween, j'avoue, en octobre. Non, c'est une bonne question. Parce
c'est pas frustrant, ça, parce que si on n'est pas le jour d'Halloween, ou alors on peut changer le jour de son horloge et on arrive à Halloween.
Tu peux, mais tu t'exposes à des punitions au niveau de du pourrissement de tes objets et tout ça.
Ah oui.
Tu peux pas trop jouer à Dieu, malheureusement.
Ah, d'accord.
Mais... c'est une bonne question parce que la nouvelle implantation du jeu, c'est le fameux rôle de maire qui n'existait pas avant, où tu décides de projets municipaux. Bon, là, c'est un peu le point de déception aussi parce que finalement, les projets que tu fais sont purement décoratifs et pas du tout interactifs. Et j'aurais aimé qu'ils poussent encore plus le projet. Et ce truc-là, moi, me tient en haleine vraiment parce que ça me donne vraiment l'envie de me lever chaque jour avec le jeu. Et vraiment, il y a un côté très rituel maintenant qui s'est instauré dans ma vie, c'est que tu te lèves et tu passes d'abord ta première heure sur Animal Crossing. Enfin, tu prends nouvelle de
avec le café, c'est café Animal Crossing croissant en fait. C'est le
bonheur à l'état pur. Et j'ai l'impression que ce côté-là est assez limité finalement parce que t'arrives, si tu te débrouilles bien justement au niveau de la capitalisation des clochettes, le nombre
c'est la monnaie du jeu hein, pour ceux qui n'ont pas compris.
Voilà.
Une maison sans rien, une maison de base, c'est 10 000 clochettes.
Ah ouais,
je trouve ça mais hyper cher. Ouais, alors que le mec,
c'est le marché,
mec, il m'a rien demandé quoi. Il m'a foutu le contrat 10 000 clochettes à rembourser. J'avais pas le choix.
On sait pas si Cécile Duflo débarquera dans
non,
le
mais
jeu.
J'ai trouvé
mais bon,
ça, mais alors j'ai trouvé ça dégueulasse. C'est une espèce de truc 10 000 clochettes quoi à rembourser.
Non, mais encore c'est rien.
Et en attendant, tu dors dans ta tente.
Ouais.
C'est quoi cette morale? C'est
ouais,
quoi cette morale du
jeu? Si tu as commencé en été, il fait beau.
Ah non, moi il pleut déjà. Déjà aujourd'hui, il pleut. Je sais pas vous, mais moi, il pleuvait dans Animal Crossing. C'est mal, hein, la gentillesse, tout ça. Vu le temps qu'on se tape à Paris, on se connecte, il pleut.
Mais c'est mieux pour pêcher, tu trouveras des espèces beaucoup plus rares.
En même temps, il y a ce moment. Non, mais il y a ce moment quand même. Il y a ce moment. Je dois confesser, parce que je fais mon cynique depuis le début, ce que je ne suis pas, hein, vous me connaissez, mais c'est. À un moment, j'ai quand même pêché un poisson scorpion dans la mer, j'étais très heureux.
Ah, attends d'avoir ton premier requin marteau, alors là, t'es le roi du monde.
Non, je préfère le poisson scorpion. Je trouvais que ça avait de la classe de pêcher un poisson scorpion. Et du coup, je l'ai mis dans l'aquarium. Donc, je peux aller l'admirer. Non, je suis en train de tomber dedans, c'est ça.
Il y a quelques signes quand même.
Ah, merde.
Les premiers symptômes sont là quand même.
Je crois que je vais me remettre à Outline Miami. Merci, je commence à comprendre un peu à quoi quel est l'intérêt de ce Animal Crossing New Leaf, évidemment sur 3DS. Vous avez le droit, vous ne serez pas interdit de forum après, vous avez le droit de partager le code de votre village sur les forums de Silence on Joue. Vous pourrez comme ça vous rendre visite, ça va être beau, les gens sont gentils, ça va. C'est tellement beau. C'est le moment, après ça, d'accueillir Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose de jouer à Trocon, un jeu signé Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze, un jeu pour 3 à 8 joueurs à partir de 13 ans, pour des parties qui vont durer entre 15 et 20 minutes. C'est édité en français par ledroitdeperdre.com. Alors là, on n'est pas vraiment dans le domaine du jeu pur et dur, on est plutôt dans la poésie, on est plutôt dans la réflexion pure de l'intelligence à base de mots, on est dans l'olipo, dans la pataphysique, car Fabien et Yves nous proposent, au-delà d'un jeu, une espèce de genre de potentielle discussion avec vos amis autour d'une table. Je vous explique le principe. L'idée générale, c'est que vous allez composer des maximes aléatoires avec des cartes que vous allez piocher. Vous avez une carte verbe, une carte sujet, une carte morale, et vous allez devoir associer ces trois cartes pour dire une phrase. Alors bien sûr, parfois ça tombe très très mal, alors vous avez le droit d'échanger des cartes, d'où le mot trop con, vous allez troquer des cartes avec la pioche ou avec d'autres joueurs, histoire de faire un truc un peu plus facile à dire que ce que vous aviez dans les mains au départ, parce que ça, des fois, ça peut tomber vraiment, vraiment un peu bizarre. Mais si c'est vraiment bizarre, il va falloir user de votre talent de comédien pour dire la maxime quand ce sera votre tour. Et puis, si jamais cette maxime est un peu bancale, peut-être que les autres joueurs vont vous demander des explications. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et là, il faudra expliquer votre morale, ce que vous avez voulu exprimer. Il va falloir faire travailler votre intelligence pure. Vous allez philosopher. Alors, c'est de la philosophie de bas étage, mais elle est très rigolote. Vous allez des phrases un peu bizarres. Par exemple, le succès te transforme en princesse, mais le chien peut mordre. Et vous vous débrouillez avec ça. Il va falloir trouver la meilleure explication. Ou alors, le vieux sage cache forcément quelque chose sur le chemin du bonheur. À vous d'expliquer tout ça. Alors, l'idée générale, une fois que c'est fait, c'est qu'on va voter t'es trop con ou t'es un génie avec des petites cartes, vous marquez des points. Enfin, peu importe. Il y a un gagnant à la fin, mais on s'en fout un petit peu. L'idée générale, c'est vraiment de se marrer avec des phrases un peu bizarres, un peu rigolotes, un peu étonnantes et de voir la capacité que vous avez à un peu philosopher et trouver des petites astuces pour faire passer votre propos et pourquoi pas vous lancer dans de l'art poétique. Je vous rappelle le nom du jeu, ça s'appelle Trop Con, c'est un jeu signé Yves Hirschfeld et Fabien Bleu, c'est édité en français par Le Droit de Perdre, ça coûte une vingtaine d'euros, c'est rempli de cartes avec plein de phrases et d'ailleurs c'est rigolo, vous pouvez l'utiliser pour faire vos statuts Facebook, hein. Vous piochez trois cartes le matin, vous posez le statut Facebook, vous verrez comment réagissent vos amis, parfois ils vous trouvent génial alors que c'est juste trois cartes aléatoires, enfin bref. Je vous dis, mon cher Erwan, quant à moi, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de l'indispensable TrickTrack.net. Semaine prochaine qui sera sans doute, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas encore décidé. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse un comité spécial consultatif des chroniqueurs de Silence en Joue. Est-ce que ce sera le dernier épisode de cette saison, hein, quand même, parce que le mois de juillet va commencer. C'est vrai, on l'a pas vu approcher ce mois de juillet.
Non, c'est pas le ciel qui nous
c'est
a dit.
C'est pas ça. On a un peu manqué d'indices en même temps. Hein. la minute culturelle signée comme il se doit par Marmotte19 est une thématique qui va vous inspirer, j'en suis sûr. Quel est le nombre maximal d'unités sélectionnables simultanément dans Dune 2, la bataille d'Arrakis? Vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous souvenez, il était formidable ce jeu, hein. C'était ouais. Donc le premier jeu de stratégie temps réel. Combien d'unités étaient sélectionnables en même temps par le joueur? Ah là là, les souvenirs, c'est le
Bah, genre, tu vois tout le jeu,
ouais.
Mais...
tu vois les dessins, tu vois la machin, tu vois l'ennemi en train d'attaquer là, le truc, et tu te vois galérer quand même à aller chercher les unités, à aller dire « Non, mais revenez, allez défendre les moissonneuses. »
Bon, je me lance. 12.
Écoute, une seule était sélectionnable. Et ouais.
J'allais dire 4, mais donc...
Une seule était sélectionnable. Et donc, dans celui qui a su s'inspirer de ce nouveau gameplay révolutionnaire, c'est-à-dire Warcraft, Orcs and Humans, combien d'unités étaient sélectionnables? Là, finalement, je la trouve plus facile, parce qu'en fait, moi, il y a les stacks d'unités qui me reviennent, en fait.
Bon, je dis 4, moi je reste sur le 4.
Bien sûr.
Il faut parier sur le 4.
Parier sur le 4, t'as tout misé sur le 4 et tu as eu raison, donc 4. Et évidemment, il y avait surtout le mode multijoueur qui est arrivé dans Warcraft. Quel est le nom du studio monté par Ron Gilbert et Shelley Day, notamment, en 1995? Donc Ron Gilbert, qu'on connaît, Monkey Island, tout ça, qui ne donna naissance qu'à une seule série de jeux. Et accessoirement, de quelle série s'agit-il? Sachant que la thématique, vous l'avez deviné, est le stratégie temps réel. Bon, je dis ça comme ça. Et donc le studio, vu le silence jeu rempli, le studio s'appelait Cave Dog Entertainment. Et en 1995, ils ont quand même développé un des jeux phares, un des jeux marquants de ce genre qui est Total Annihilation. Ah, et Chris Taylor, donc le développeur principal, finira par jeter l'éponge en 2000 en partant créer Gas Powered Games. Et là, il a fait le très emblématique Supreme Commander, notamment. Et Dungeon Siege aussi. Dans Command and Conquer, de qui Kane est-il un proche conseiller? Vous vous rappelez, c'était fort ça. Westwood, c'était ça, Westwood? Mmh. Ouais, c'est ça. C'est dur, mais de toute façon, c'est normal. Ce silence est normal.
J'ai pas joué, moi.
Le silence qui suit les questions de Marmotte19 est toujours du Marmotte19.
C'est la règle. Souvent, en tout cas.
De Joseph Staline. Donc, Kane se sert en fait de l'URSS pour aider l'organisation secrète du NOD à accomplir ses sombres desseins. Quelle est la particularité de Tom Clancy's End War en comparaison à la majorité des autres stratégies temps réel du marché? Rappelez, il n'est pas si vieux que ça, le End War de Tom Clancy's.
Faudrait trouver les joueurs déjà.
Ouais, c'est la bonne. Déjà, peut-être qu'il n'avait pas de joueurs, mais ce n'est pas la seule particularité. Son originalité réside dans le fait que dans le contrôle des unités qui pouvaient se faire la voix sous la forme de unité 1, attaque cible 1.
Xbox On déjà.
Ouais, Xbox On déjà, exactement. mais c'était pensé comme le mode de contrôle principal du jeu. Enfin, c'est presque fini, hein, mais des anciens de Westwood Studios ont fondé Petroglyph Games. Ce studio sortira un jeu de stratégie qui permettait de jouer cross-platform en réunissant les jeux PC et les joueurs PC et les joueurs sur Xbox 360. Quel est le nom du jeu ? Vous n'y avez pas joué non plus et vous avez eu raison. ça s'appelle Universe at War Earth Assault. Oui, qui n'était pas forcément mauvais, mais les jeux du Xbox qui jouaient sur Xbox 360 déjà jouaient au pad. Bon courage, hein.
Oui, bon courage.
Stratégie temps réel, pad. Et c'était cross-platform, donc ils pouvaient se latter avec des jeux sous Windows, sur les gens sous Windows. Sauf que en fait le framerate était aux fraises, il y avait des bugs sur Xbox 360, ce qui fait qu'ils n'avaient aucune chance de gagner contre eux, même la plus
ils étaient déjà mal partis, mais
la plus brêle des joueurs sur PC. C'est dommage. Et enfin, StarCraft n'est pas sorti que sur PC et Mac, et une autre plateforme a eu droit à un portage. Laquelle ? Sur StarCraft quand même.
C'était pas une portable, justement.
C'était pas Linux ?
Non, c'était pas Linux.
Alors, le premier ou le...
Ouais, le premier. Et moi, je m'en souvenais absolument pas, hein, pour le coup. Eh bien, figurez-vous que
console.
Console. Ouais. Et je vous donne... Allez, une chance. Époque StarCraft, sortez-moi une console. Vous avez une chance sur 3, voire 4. voire 5.
On peut virer Nintendo déjà, non ?
Eh bien, il s'agit de la Nintendo 64.
Merci Marmotte, hein. C'est trop sympa.
C'est tellement beau. Il est sorti. Il a fallu à Blizzard et Mass Media qui a développé entre autres Defender of the Crown sur CDI. Hein. Donc voilà, Patrick serait là, il serait déjà tombé dans les pommes. Il a fallu virer quelques cinématiques et certains doublages ainsi qu'adapter la maniabilité, mais le portage mérite tout de même. Donc selon Marmotte 19, la mention honorable pour un portage console, j'entends. Dernière question de Marmotte 19, il disait citer au moins 10 civilisations parmi les 13 de Edge of Empires 2, Edge of Kings. Est-ce que vous vous rappelez des... Moi, je...
De quoi c'est les add-ons qui demandent ?
Non, les civilisations jouables.
Bon, on va dire romain.
Écoute, on va s'arrêter là, parce que déjà, il n'y a pas les Romains.
Il n'y a même pas les Romains.
Les Francs, les Celtes, les Britanniques, les Teutons, les Goths, et oui, les Vikings, les Perses, les Sarrasins, les Byzantins, les Turcs, les Chinois, les Japonais et les Mongols qui étaient jouables dans Edge of Empires 2. Va arriver sur iOS, lui, peut-être aussi, hein, s'ils s'y mettent, ça se trouve. C'est le 1 qui va arriver.
Exactement. Enfin, bon, on va voir arriver toute la tripotée, toute la saga sur tablette et smartphone. Microsoft l'a promis, en tout cas.
Et donc, le portage du moment, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on a parlé ici beaucoup, hein, de jeux iOS, Android, beaucoup de jeux originaux, mais quand il s'agit de parler de portage de jeux qui existaient déjà auparavant,
c'est
souvent pas très beau, sauf éventuellement quand c'est repris complètement à partir de zéro, comme le Rayman Legends, pas Legends, mais Rayman Jungle Run à partir de Rayman Origins, mais quand il y a des portages des jeux classiques, ça marche jamais, sauf là, on écoute déjà à quoi ça ressemble. En même temps, c'est pas comme si ce son était hyper représentatif du jeu, hein. Mais on parle donc de XCOM Enemy Unknown, jeu dont on avait parlé donc l'année dernière, hein, qui était un des grands jeux de la rentrée. On rentrait de vacances avec ce XCOM, si vous vous souvenez. XCOM Enemy Unknown, très bonne surprise. Enfin, en même temps, on retrouvait les origines, hein, de cette grande licence. Donc, on revenait au back to basics, les aliens. Du tour par tour, de l'expérience, des soldats qu'on monte, des technologies, des ingénieurs, des choses en armes technologiques, des radars, des vaisseaux à piloter, des aliens à intercepter. On ne pilote pas les vaisseaux, mais on les lance pour intercepter les aliens. Enfin voilà, tout ce qu'il fallait, on retrouvait vraiment la substance de XCOM dans cette nouvelle version, et il débarque sur iOS.
Mais il débarque complètement.
Voilà.
C'est le jeu complet qui débarque, le même jeu, c'est-à-dire sur console, débarque sur iOS. Et c'est ça qui est vraiment, étonnant. iOS et Android, pardon.
Sur Android aussi.
Je crois que c'est sur Android également. C'est une version, sur iPad et iPhone pour l'instant, effectivement, iOS. Je me trompe. C'est assez lourd, hein. On parle de 2 gigas pour le téléchargement et environ 3 gigas et demi, au total, au final. Donc il faut quand même prévoir de la place. Donc c'est le vrai jeu complet. Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que du côté des cinématiques, bon, effectivement, là, on a revu les prétentions à la baisse. Hein, on a dégraissé la texture pour alléger tout ça, mais ça gêne pas. C'est pas très dérangeant. De toute façon, c'est pas là où est la substance du jeu. C'est effectivement tout, gameplay, dans la gestion de base, qui est plutôt pas mal retranscrite, et surtout, effectivement, dans la stratégie tour par tour, où il va falloir décimer les extraterrestres et les affronter. Et là, c'est vraiment pas mal parce que au tactile, et ça fonctionne. Ça fonctionne. On a le même plaisir. On a exactement le même plaisir que sur console. Peut-être un tout petit peu moins précis parfois parce qu'on a la carte. Mieux vaut jouer sur tablette que sur smartphone. Ça me paraît un peu petit, surtout quand on a des gros doigts comme moi, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, comme on n'a pas la carte tout entière, parfois on peut se tromper, on peut se planter, c'est très léger, hein, donc je cite vraiment les bémols, mais sinon c'est ça qui est bluffant, c'est qu'on a vraiment l'impression, mais sans s'en rendre compte, de jouer à un jeu console, c'est sur tablette, bon, c'est le même jeu.
Voilà, du tour par tour, cette espèce d'interface qui était déjà un peu rétro-futuriste, qui pouvait vraiment s'adapter. On imagine.
Clairement.
Enfin, intuitivement, on se dit, ça marche. Yann, toi, t'as eu l'occasion d'essayer aussi.
Ouais, effectivement, je suis assez agréablement surpris du portage. Non seulement au niveau de l'interface, ils l'ont repensé et clairement bien adapté à la jouabilité tactile. J'ai un petit bémol quand même sur le fait, normalement tu peux passer ta vue au niveau des étages, enfin tu peux vraiment, si tu veux monter sur un bâtiment et tout ça. Et là, pour le coup, le geste de le faire est pas précis du tout, je suis devenu fou, clairement. Mais à part ça, pour tourner...
C'est une commande gestuelle pour...
En fait, tu dois mettre deux doigts sur ton écran et puis faire un mouvement de haut en bas, et le jeu l'enregistre pas bien, donc des fois il comprend que tu veux tourner la caméra ou que tu veux zoomer et tout ça. C'est un détail, hein, je pinaille, mais... J'avoue que ça peut rendre fou, mais au-delà de ça, vraiment le côté intuitif de bouger la caméra, choisir ton emplacement et tout ça est très bien fait. Effectivement, au niveau graphique, il y a de la perte, enfin surtout une chute de framerate qui est assez hallucinante des fois, mais bon. En même temps, je veux dire, ce que ça inaugure en termes de stratégie à venir pour des machines comme ça, il faut savoir que ça tourne à partir de l'iPad 2 et de l'iPhone 4, pas en dessous. Mais voilà, c'est déjà assez impressionnant. Le jeu vaut une quinzaine d'euros, donc pour moi, c'est un des meilleurs investissements si on n'a jamais joué à la version PC, parce que bien sûr, si tu as le choix, tu prends la version PC.
C'est clair.
Mais au-delà de ça, c'est un gameplay qui s'adapte bien en plus à la jouabilité nomade. Tu fais une mission de temps en temps. C'est suffisamment bien rythmé, bien scénarisé. Bon, il avait été descendu à l'époque par les fans en disant que c'était un truc de casu et tout ça, mais on s'en fout. Enfin, je trouve que là, pour le coup, il trouve une utilité parfaite sur un écran tactile. Non, vraiment, c'est une très bonne surprise, quoi, à conseiller vivement.
Et les zooms et tout ça,
c'est vraiment pour indiquer parfois, parce que la carte est trop grande et pour aller à un point plus loin, avec le tactile, on est obligé de galérer un peu, effectivement, les étages. Donc c'est des petits soucis comme ça qu'on sent. Alors ça, ce qu'il y a de bien quand même, c'est qu'il peut y avoir une mise à jour très très vite sur iOS, hein, donc ça c'est pas un souci.
Il peut y avoir une mise à jour très très vite de 2 gigas, tu vas la sentir, mais
de 2 gigas on va la sentir, mais enfin c'est un truc qu'il faut jouer quand même à la maison. Pourquoi je dis tablette aussi, c'est parce qu'il est quand même très gourmand derrière, le processeur bosse beaucoup. Le smartphone, il faut oublier, parce que je pense qu'en genre 10 minutes, la batterie explose, la batterie est à plat. Donc, c'est un peu plus simple quand on est à la maison. Le prix, je suis peut-être un peu moins sûr. Alors certes, effectivement, on n'est pas sur des prix console et PC. C'est 18 euros environ. 18 euros. Là où j'ai un doute, c'est que le problème de ces machines introduisait des prix nouveaux. Et une gamme de prix qui va du gratuit, on va dire, à en dessous de 10 euros, je dirais. Mais en dessous de 10 euros, c'est déjà la Rolls-Royce, quoi. Enfin, ouais, je veux dire, c'est déjà mettre moins de 10 euros mécaniquement dans la tête des gens, c'est compliqué. Même sur iOS, hein, là où on paye le plus, hein, là où les gens payent le plus, sur Android, c'est déjà plus difficile. Et là, je me dis peut-être qu'un, là aussi, un sacrifice à 9,99€, pourquoi pas, en juste en dessous de 10 euros. Ouais. Certes, ça peut sembler bradé, mais ça ne le sera pas sur ces machines-là. Ça aurait pu marcher un peu mieux. Voilà.
Ouais,
donc,
parce que là, c'est vrai que 18 euros, c'est ça?
C'est ça, ouais, voilà. C'est... Et on n'est pas habitué sur ces machines. C'est pas que ça les vaut pas. Ça les vaut, mais très largement. Le jeu, c'est le jeu. Il y a la profondeur du jeu. On peut le jouer en occasionnel. On peut jouer vraiment en profondeur, s'amuser vraiment. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Mais il y a quand même un prix plancher qui est un petit peu douloureux.
Ouais, ça va un peu à l'encontre d'une norme de consommation aujourd'hui.
En tout cas, sur ces machines-là, c'est ça que
oui,
je veux dire.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est,
ça.
C'est là où on n'est pas habitué. Mais en tout cas, ça les vaut vraiment sans broncher. Allez-y, hein, si vous avez les 18 euros. Mais moi, j'aurais plus vu un prix en dessous de 10 euros, ce qui est déjà la Rolls-Royce sur iOS. Quoi.
C'est clair. Attendre 6 mois pour que ça devienne. Ouais. J'imagine.
Mais il y a des trucs, c'est comme le GTA de Chinatown Wars aussi, qui est moins cher, lui, qui est passé aux alentours de 10 euros.
Et là, on peut se dire, bon, pour un investissement, pour un gros jeu, entre guillemets, on se dit, on va s'acheter un gros jeu, c'est un investissement, on va pouvoir jouer des mois.
Mais c'est vrai que c'est un souci, le fait de ne pas pouvoir aller jusqu'à 20 euros. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, ça fait vraiment, là, pour le coup, ça fait jeu très très cher.
Alors que dans l'absolu, on va s'acheter des jeux à 60 euros et on le fait, des jeux consoles. Mais non, il se trouve que sur ces machines-là, on n'est pas encore habitué. Mais ceci dit, on n'était pas habitué, ça faut le noter, à une qualité de portage aussi grande. Enfin, je veux dire, on a quasiment le jeu initial, le jeu original.
Et ben, c'est formidable. En tout cas, je jetterai un œil si il sort un jour sur Android ou si j'arrive à voler un iPad un jour. C'est fini cette semaine pour le jeu vidéo. Merci à tous les deux. Merci Yann d'avoir fait cette première apparition dans Silence on joue. C'était très bien. Mais c'est l'heure de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi ? Jean.
The Killing, saison 3 qui a démarré aux États-Unis. The Killing, donc où on retrouve les mêmes héros, la même ville pluvieuse, absolument pluvieuse d'ailleurs, ça démarre sous la pluie et avec une affaire criminelle qui va toucher des prostituées adolescentes et un serial killer. Alors, comme on avait eu l'impression qu'avec la saison 1 et saison 2, donc de ce polar vraiment pluvieux, n'hésitez pas vraiment à aller découvrir la saison 1 et saison 2. Bah, c'était un univers clos, c'était fermé. Voilà. Saison 1, saison 2, ça aurait pu s'arrêter là.
C'était prévu comme ça.
Mais face au succès de saison 1 et saison 2, évidemment, les Américains ont poussé le bouchon un peu plus loin. Donc on se méfie, on se dit.
Est-ce qu'il y a un Jumping the Shark?
Est-ce qu'ils ont pas un peu rallongé la sauce, etc. Pour l'instant, je dirais, ça commence à fonctionner à partir du troisième épisode. Là, on commence à être vraiment, vraiment accro,
dans le genre série lente, elle se pose là.
Voilà, exactement. Elle prend son temps pour identifier, pour présenter les protagonistes. Donc, on est un peu dans, ça fait un peu The Wire, quoi. Enfin, il y a un petit côté, on est dans une chronique de vie, hein. Donc, voilà.
Elle s'est pas améliorée en mère de famille?
Non, pas du tout. Pas grand chose ne s'est amélioré, hein, puisque ça, c'est l'héroïne, ex-inspectrice, qui ne l'est plus. Au début de cette saison 3. Et puis ça commence à prendre, et j'ai hâte de voir les épisodes suivants. Donc The Killing, si vous êtes curieux, de toute façon, allez voir la saison 1 et 2. Tu en as déjà parlé.
Yann,
J'ai eu chaud, je voulais aussi parler de The Killing, mais je voulais surtout conseiller une nouvelle série qui s'appelle Rectify, qui est terminée, qui est en 6 épisodes seulement. Je pense que c'est pour une première saison, ils ont fait court. C'est, on va dire, l'histoire d'un ancien condamné à mort qui était dans le couloir de la mort, qui, pour un détail juridique, est libéré, après une vingtaine d'emprisonnements. Donc scénario ultra casse-gueule, vraiment... Vu, revu, et voilà. Mais jamais en série. Et c'est là où je trouve que le format apporte quelque chose de nouveau. Parce que elle se axe pas sur la psychologisation des personnages. Voilà, le mec qui est resté enfermé, comment il découvre la vie. Non, c'est une série qui, pareil, prend son temps, qui essaie de saisir qu'est-ce qui vaut le coup quand on n'a pas vu le monde pendant 15 ans et qui s'attache à des détails complètement anodins. Mais c'est tellement bien filmé. Surtout, c'est la découverte d'un grand acteur qui est l'acteur principal. Enfin, vraiment, moi, ça m'a donné très 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 envie de plonger pour une deuxième saison. Donc voilà,
Rectify. C'est série américaine ?
Absolument, ouais.
D'accord. Moi, pour ma part, j'ai recommencé à lire tous les comics que j'avais en retard. Et donc là, je suis reparti dans Marvel Now, hein, donc la réponse de Marvel au New 52 de DC. Et notamment sur les All New X-Men. Il y a un Bendis, hein, encore lui, qui est quand même le scénariste. Je l'adore, qui fait revenir les premiers X-Men pour partir à la rencontre des X-Men d'aujourd'hui. Il va chercher donc les X-Men des années 60, donc ceux où ils avaient leurs costumes un peu bizarres, jaune et bleu, où il y avait Jean Grey, Cyclope, Iceberg, Angel et The Beast, et qui n'était pas encore la Bête Bleue, hein, à l'époque. Et voilà, et ils reviennent, donc voyage dans le temps, voilà, Jean Grey, hein, qui est morte depuis, et ils reviennent rencontrer Cyclope, le Cyclope d'aujourd'hui, qui lui est parti du côté légèrement fascisant de la défense des mutants. Voilà, donc il y a plein de choses dans ce Marvel Now, il y a plein de choses absolument très bien. Il y a d'autres choses beaucoup moins sympas, mais voilà, je replonge avec un grand plaisir. Il y a les Fantastic Four, qui est une série à laquelle je n'ai jamais réussi à accrocher, et là en fait ils partent dans un espèce de délire absolu où il y a deux séries Fantastic Four en parallèle, parce que les vrais quatre fantastiques sont partis dans un univers parallèle et partir en vacances en fait, et ils ont laissé les clés à quatre personnes pratiquement prises au hasard qui deviennent les quatre fantastiques par intérim, et franchement ça donne deux séries complètement déjantées, c'est assez marrant. Voilà, c'est fini pour le jeu vidéo, nous on se retrouve très bientôt. Donc pour parler de jeu vidéo, je l'oublie, ah oui, à la technique c'était Louise Molière, j'avais oublié de le dire, voilà, il faut le dire à chaque fois. Donc nous on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.